De Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son et quel plaisir de te retrouver. Fil rouge de cette émission, souvenirs et expérimentation. Mais avant d'accueillir mon invité dans le cocon confortable des studios de Radio Guémozo, eh bien, c'est les actus qui donnent le smile. Un papillon disparu depuis 1984 a été redécouvert dans les Alpes-Maritimes. En Haute-Loire, des apprentis esthéticiennes offrent des soins aux femmes atteintes de cancer. En Haute-Loire, le Brésil lance un programme de reforestation de l'Amazonie sur 40 ans dans la réserve de Bomme Futuro. Et enfin, la Suède lance son premier bar thérapie pour consulter un psy sans rendez-vous. Merci pour l'info, Joe. Il est maintenant temps pour moi d'accueillir mon invité. Il est l'artisan des marges, le mécano des émotions oubliées et il nous prouve que derrière chaque chanson de rue, il y a encore une vie qui bat. Bonjour Max Ollier.
Bonjour.
Comment ça va ?
Eh ben, ça va pas mal.
Eh ben, super. Alors, je suis contente parce que c'est la première fois que tu viens dans les studios de Radio Guémozo.
Tout à fait, ouais.
Et ça, ça me fait bien plaisir. Alors, quelle actu as-tu préférée ?
L'histoire des esthéticiennes.
Un petit peu de solidarité, ouais, ça fait plaisir.
Ça fait bien.
Alors, Max, tu l'auras peut-être compris, tu es ici dans l'odeur du son. D'où ma première question. Est-ce que le son a une odeur pour toi ?
Est-ce que le son a une odeur ? Il en a beaucoup, je pense. Les sons ou des odeurs,
ouais.
Je dirais plutôt.
J'ai tendance à dire un petit peu, tu sais, la Madeleine de Proust. Parfois, quand on écoute une musique, par exemple, ça nous replonge dans un souvenir et instantanément peut nous venir une odeur. Voilà, c'est un petit peu comme ça que moi je le vois.
Ok, je comprends ça.
Ma deuxième question, incontournable de l'odeur du son, si tu devais te présenter avec tes mots à toi, Max, ça donnerait quoi ?
Si je devais me présenter, alors, en combien de mots ?
Ah ben, autant que tu veux, hein. On est une heure ensemble, donc t'as autant de temps que tu veux.
Alors, si je veux me présenter professionnellement, on va dire.
Comme tu veux.
Je suis un peu musicien, un peu chanteur, un peu conteur, un peu comédien, un peu constructeur et un peu usurpateur avec tout ça.
Ok, pourquoi pas.
Voilà,
okay,
on pourrait
super.
Dire ça comme ça.
Alors, en explorant un petit peu ce que tu fais, notamment à travers tes spectacles qui courent, j'ai eu cette sensation, moi, que tu étais un petit peu comme un porte-parole du passé. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ?
Pas complètement.
Ok.
Ouais. Non, parce que je pense que même si on va fouiller dans les chansons passées ou dans les histoires passées, ça nous raconte toujours quelque chose sur maintenant.
Mm-hmm.
Et alors après, c'est toujours bien aussi de voir ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre le présent et mieux prévoir le futur.
Tout à fait.
Voilà. Mais je ne suis pas dans la nostalgie du temps passé ou ce genre de choses. Mais j'aime bien vivre le présent en sachant ce qui s'est passé avant. Et c'est une sorte, on peut appeler ça une sorte de devoir de mémoire si tu veux. Mais,
ok.
Mais pas passéiste en tout cas, ça
okay,
c'est sûr.
D'accord. Max, quand est-ce que tu es tombé dans cette grande marmite de la chanson et plus encore ?
Très 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 tôt.
Ok.
Très tôt, oui. Depuis gamin, en fait, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. J'habitais un petit village, mes parents avaient des disques et quand je m'ennuyais, je passais des disques sur le phono.
Trop bien.
On avait encore des 33 tours à l'époque.
Ouais, quel plaisir. Ça revient.
Oui, oui. Et donc, je fouillais dans les placards de mes parents et j'écoutais des choses. Et puis, j'ai eu le bonheur, peut-être, ça dépend des moments, mais d'avoir une grande sœur beaucoup plus grande que moi,
okay,
qui s'occupait beaucoup de moi et qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, qui fait que très jeune, j'ai écouté des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à mon âge, normalement.
Ok.
Mais j'ai été bercé très tôt par Brel, Brassens, Sigelin et puis très rapidement par du punk et du rock alternatif et ce genre de choses.
Est-ce que ça a un petit peu conditionné le reste ?
Ouais, forcément. Forcément, les paroles et ce que les chansons racontent ont toujours eu beaucoup d'importance pour moi.
Mmh. Alors, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois, peut-être années, on ne sait plus, au Théâtre de la Miroiterie, avant l'une de tes représentations de Fleurs de pavé, retraçant le parcours de Fréhel, hein, ce qui donne eh bien, maintenant tout naturellement la place à ce premier disque chouchou de cette émission. Playlist d'ailleurs spécialement concoctée par toi, Max, aujourd'hui. Alors, tu m'as prévenu d'un grand écart musical, un petit peu.
Un petit peu, oui, quand même.
On va voir ça.
Oui.
Dans ce bistrot près de l'écluse, je sers à boire aux mariniers. Je chante aussi, ça les amuse. Je sais les mots qui font rêver. Mais j'essaye en vain toutes les ruses, car au bout d'un soir, tous m'ont quitté. Sans lendemain, sans rien qui dure, un homme passe et puis s'en va, sans lendemain. Mes aventures depuis toujours s'arrêtent là. Jamais l'espoir d'un autre soir. Bonjour, bonsoir, adieu l'amour, sans lendemain. Sans rien qui dure, voilà ma vie depuis toujours. J'en ai connu de toutes sortes, des mal foutus et des beaux gars. Chaque fois que s'ouvre la porte, mon cœur se dit c'est celui-là. Oui, mais le destin bientôt l'emporte, comme tous les soirs je reste là. Sans lendemain, sans rien qui dure, un homme passe et puis s'en va. Sans lendemain, mes aventures depuis toujours s'arrêtera. Jamais l'espoir d'un autre soir. Bonjour, bonsoir, adieu l'amour, sans lendemain, sans rien qui dure, voilà ma vie et pour toujours. Jamais l'espoir d'un autre soir. Bonjour, bonsoir, adieu l'amour. Sans lendemain, sans rien qui dure, voilà ma vie et pour toujours.
Fréhel, sans lendemain sur le 107.0, la voix des marches, celle qui ne triche pas. Max, on s'était donc rencontré à l'occasion de Fleurs de pavé, où tu incarnais, entre autres, Fréhel.
D'une certaine façon.
Ouais, d'une certaine façon. Comment tu arrives à te mettre dans la peau là, d'une femme, par exemple? C'est un exercice, quand même.
Oui, alors la question s'est beaucoup posée quand j'ai voulu créer ce spectacle-là. Est-ce que je me mettais à sa place ou pas? Et en fait, je pense que déjà, elle ne se gênait pas pour chanter des chansons qui prenaient la voix d'un homme.
Oui.
Quelques chansons où,
tout à fait,
où elle se met dans cette place-là. Et je pense qu'au-delà du sexe ou du genre qu'on peut avoir, les sentiments sont là. Et je pense que j'ai pas mal d'empathie en règle générale. Et me mettre à la place de quelqu'un d'autre, même qui n'a rien à voir avec moi, c'est quelque chose qui me touche et qui me fait plaisir à partir du moment où ce propos ou ce sentiment me touche.
Oui. Et puis on casse les genres et ça, c'est vraiment d'actualité. Donc bravo. Est-ce que tu le joues encore, ce spectacle?
Alors, pas très souvent, mais oui, il est toujours dans le... dans le répertoire de la compagnie.
Cette immersion dans le répertoire réaliste, c'était quoi ? Plutôt un besoin de Racine ou une envie de prouver que finalement la mélancolie de 1930 cogne encore aussi fort que celle d'aujourd'hui ?
Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre, je vais te dire. C'est plus cette rencontre que j'ai eue avec Fréhel, en fait.
Oui.
C'est vraiment ce personnage qui m'a particulièrement marqué. Amoureux de la chanson, forcément, j'ai une tendresse pour la chanson réaliste des années 20. Voilà, les trucs qui prennent au bide et qui viennent de là. Mais Fréhel a eu, même dès l'adolescence, j'ai commencé à écouter ça des 12-13 ans.
Ah oui ?
Oui, c'est okay. En plein milieu des années 90. C'est assez surprenant.
Là, c'était surréaliste, pour le coup.
Oui, pour le coup. Je sais pas, il y a quelque chose chez elle qui m'a tout de suite touché. Et pour moi, c'est vraiment une rencontre, en fait. Mmh. Alors, on va pas parler d'histoire d'amour ou de choses comme ça, mais il y a comme deux âmes qui se rencontrent et un lien qui s'est créé tout de suite. Et j'ai toujours su que si un jour je chantais, je montrais un spectacle sur ces chansons-là. Ouais.
Fréhel entre force et vulnérabilité, finalement.
Ouais, tout à fait.
Incroyable parcours. D'ailleurs, si tu le joues, eh bien, je vous invite à aller écouter ça. Alors, tu es l'âme de la compagnie Maxolier, hein, tu l'as évoqué très furtivement, ce laboratoire de l'imaginaire où l'on explore ce qu'il y a derrière, en dessous ou à côté de la chanson.
Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ma façon de penser les choses, bon, même si maintenant je commence à aller au-delà de la chanson.
Ok.
Mais j'ai toujours pensé que les chansons nous racontaient, en tant qu'êtres humains, mieux parfois que des textes purs, mieux qu'une étude sociologique. Et je me suis toujours intéressé à ce qui faisait que la chanson avait une présence aussi forte dans notre culture et dans nos imaginaires.
C'est vraiment le langage universel, hein, on dit la musique de toute façon. Hein.
Ouais, et je me plais à aller fouiller des éléments différents de notre société, de notre humanité, et d'aller piocher dans la chanson pour parler de ça. Mm. Donc la chanson devient plus une excuse pour parler de l'humain, okay. En réalité.
C'est vraiment ton sujet de prédilection, l'humain ?
Ouais, je pense que c'est plus ça. Et la chanson, c'est le média que j'ai choisi de prédilection.
Parce que c'est plus simple pour toi de t'exprimer là-dessus sous couvert de la chanson que directement.
Eh ben, je pense que ça va direct au cœur, en fait. Ça va, voilà, il y a quelque chose qui nous touche directement et quelques mots racontent énormément de choses. Aussi dans la façon de faire. Enfin, voilà, la forme et le fond se lient pour exprimer quelque chose de plus grand.
Ça serait incroyable chanson. Si on interagissait en chantant. Tu sais, toute la journée, on chante au lieu de se parler directement. Ce serait incroyable. On va tester ça. Tu te définis aussi comme un colporteur. J'utilise ce terme car justement, tu as ce spectacle colporteur de chansons à souvenir qui se joue encore ou pas, celui-là ?
Oui, qui se joue encore. Oui. C'est mon tout premier spectacle qui date de 2014.
Eh ouais ?
Ouais.
Ah oui,
ouais,
il a de l'âge.
Il a de l'âge et il joue toujours. Il joue toujours.
Ok.
Et c'est lui qui a voilà, lancé la création de mon projet artistique.
Oui.
Sur ce spectacle, justement, l'objet, c'était de parler de l'autre au travers de ses chansons.
Oui.
Et donc, c'est tout un récital d'histoires, de chansons. Je suis allé voir des gens, ce sont que des vraies histoires, qui m'ont raconté pourquoi telle ou telle chanson du répertoire... les touches, elles leur ramènent à un moment de leur vie. Et du coup, le répertoire est large. Hein, il va du temps des cerises du 19e siècle jusqu'à des chansons de Souchon des années 80.
Génial. Hein. Justement, donc, pour porter, il faut ramasser, collecter des paroles, tu viens de le dire. Alors, qui est-ce que tu as été rencontré pour ramasser tous ces souvenirs ?
Alors, le tout début du projet, c'était pour un festival qui s'appelait le Festival du Village à Bascule, qui était en milieu rural, en Meurthe-et-Moselle, là où j'habitais. Et je leur avais proposé ce projet, l'idée de base, enfin, la proposition de départ était de faire une sorte de carte postale du secteur.
Okay.
Et donc, je suis allé rencontrer des gens en maison de retraite. Je suis allé aussi rencontrer des personnes seules chez elles qui ont le repas porté à domicile.
Ouais.
Donc le deal, c'était que ce jour-là, la DMR servait livrer deux repas. Et j'allais partager le repas avec
c'est chouette,
ces petites dames, parce que pour le coup, c'était plutôt des dames seules.
Okay.
Ouais, je commençais à 11, j'arrivais à 11h et j'avais du mal à repartir à 16h.
Ah, c'est vrai. Ouais.
Et c'était vraiment des très beaux moments d'échange.
Ouais.
Et le répertoire, c'est le premier répertoire, la base, s'est construit comme ça et avec des bénévoles du festival qui étaient invités à venir se raconter.
Ok. Et pendant ces rencontres, est-ce que tu as un souvenir marquant de quelque chose qui t'a vraiment saisi, même si j'imagine que tout prend aux tripes, hein, forcément,
oui,
quand
bien
on
sûr.
Rencontre.
Mais il y a la petite Hélène.
Ouais.
C'était qui vivait toute seule dans sa petite maison, dans son petit village. Qui m'a réchauffé le repas du midi sur son poêle à bois, vraiment à l'ancienne, quoi. Elle vivait toujours dans sa cuisine avec son poêle à bois, etc.
Ouais.
Et qui savait vraiment pas quoi me raconter, mais j'arrivais pas à partir de chez elle. Parce que... et c'était magique parce qu'elle avait vécu toute cette vie dans ce petit village, je sais pas, 80 habitants, quelque chose comme ça. Et elle m'a raconté toute la vie du village et c'était vraiment, vraiment tendre, et doux, quoi.
Qu'est-ce qui te saisit autant dans ces échanges? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? C'est quoi qui te prend le plus?
Déjà qu'elle parle beaucoup.
Ouais.
Puis bon, voilà.
Petite mamie. Hein.
Voilà, un jeune homme qui partage un repas avec une petite mamie.
C'est pas tous les jours.
Donc elles en profitent. j'ai aussi beaucoup de tendresse pour ces gens qui ont traversé des décennies et qui ont des vies qui paraissent simples, mais qui ont vécu beaucoup de choses. Enfin, le XXe siècle a été un siècle qui a connu des évolutions assez monstrueuses.
C'est sûr.
Et de voir cette évolution, surtout en milieu rural, c'est touchant.
On avait été justement à l'EHPAD de Plombières-les-Bains et on avait été rencontrer des résidents, surtout des résidentes finalement, qui étaient plutôt volontaires. Et ça me fait penser à ça. Elles ont l'impression qu'elles n'ont rien à dire sur leur vie, que ça a été complètement dénué de sens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est d'une richesse sans fond.
Incroyable.
Ouais. Et ça me fait penser aussi à Fernande. Tu l'as vu ce film, ce documentaire?
Non.
Une petite dame qui habitait dans les hauteurs de Rochesson, il me semble, et qui a vécu toute sa vie dans la même maison, sans les évolutions technologiques, qui est décédée il y a très peu de temps, mais ils en ont fait un documentaire, je t'invite à aller le regarder, il est très, très parlant. Voilà. Pour ce spectacle colporteur de chansons à souvenirs, le public participe aussi, il me semble, en tirant une languette, si je ne m'abuse.
C'est ça. Oui. Alors, j'ai ma mallette avec des petits cartons qui dépassent. Sur chaque carton, il y a un prénom, c'est le prénom de la personne qui m'a confié sa chanson.
Okay.
Et donc, c'est le public qui choisit ce qu'il va écouter.
Okay.
Dans l'ordre où il va l'écouter. Je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais faire les choses.
Okay.
Et bien sûr, comme on parle de souvenirs et de chansons, le public est toujours invité à se raconter.
Mmh.
Et c'est ce qui continue à alimenter le répertoire de
D'accord.
ma mallette.
Ouais.
Donc, une fois que j'ai eu ce premier petit bout de répertoire construit pour ce festival, le répertoire continue à s'enrichir
D'accord.
à chaque fois que je joue, au gré de ce que les gens veulent bien
Super.
Me raconter.
Est-ce que tu leur contextualises les choses aussi en racontant un petit peu la rencontre ou simplement la chanson ?
Il y a l'histoire, oui, bien sûr. Alors, pas forcément ma rencontre avec cette personne-là, mais l'histoire de cette personne.
Mmh.
Et le pourquoi de la chanson.
Oui, oui. Ok. Et si toi, tu étais une chanson dans ce répertoire, ça serait laquelle ? Je peux te laisser du temps pour réfléchir. On reste dans l'exigence des mots et la beauté du geste avec ce deuxième disque chouchou que tu nous as préparé. Sati, je te veux, la version de Juliette et Alexandre Tarot, c'est ce que tu m'avais demandé. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Je n'ai qu'une envie. soit le mien et que toute ma chair soit tienne. J'ai compris ta détresse, cher amoureux, et je cède à tes voeux. Fais de moi ta maîtresse, loin de nous la sagesse, plus de tristesse, et j'aspire à l'instant précis où nous serons heureux. Je te veux, oui, je vois dans tes yeux la divine promesse que ton cœur amoureux vient chercher ma caresse, enlacée pour toujours, brûlée des mêmes flammes dans des rêves d'amour. Nous échangerons nos ta détresse, cher amoureux, et je cède à tes voeux. Fais de moi ta maîtresse, loin de nous la sagesse, plus de tristesse, et j'aspire à l'instant précis où nous serons heureux. Je te veux.
Satie par Juliette, c'est suspendu. Merci beaucoup pour ce choix. C'est un moment voilà, hors du temps.
Hein.
Ouais. Pourquoi tu as choisi ce titre ?
Alors, j'ai choisi ce titre parce qu'il me permettait deux choses.
Ouais.
C'était d'écouter Satie,
oui,
et d'écouter Juliette, qui sont deux personnages que j'adore.
Ouais. Voilà. Max, tu travailles justement sur ton nouveau projet Vexation Mécanique autour de l'œuvre Vexation de Satie. Satie a écrit une pièce intitulée donc Vexation, une page de musique très courte avec une consigne, la répéter 840 fois de suite. C'est ce défi fou qui t'a inspiré pour Vexation Mécanique.
Ouais, tout à fait.
C'est incroyable.
Alors, c'est pour se le jouer 840 fois.
Ouais.
Hein, c'est quelque chose,
ouais,
de très introspectif.
C'était pour lui-même.
En tout cas, pour okay, l'exécutant. Il semblerait qu'il était à un moment de détresse.
Ouais.
Et c'est une sorte de morceau punition.
Oh non.
Et si.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe à travers tout ça pour que tu crées Vexation Mécanique ?
Et alors, moi, je travaille depuis le colporteur avec de la musique mécanique et notamment un petit componium. Donc, c'est une boîte à musique,
okay,
comme les boîtes à musique pour enfants là, qui,
ouais,
jouent une petite mélodie.
Ouais.
Sauf que celle-là fonctionne avec des cartons perforés,
okay,
comme un orgue de barbarie.
Ouais.
Donc, qui permet de faire des morceaux entiers, des chansons entières. Et j'avais, à la base, j'avais envie de travailler sur Satie. Parce que sa musique m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup sa façon d'écrire complètement atypique et une façon d'écrire qui se mêle à merveille avec ses sons de musique mécanique et,
oui,
la scie musicale que je pratique aussi.
Oui.
Et en fouillant son répertoire, en commençant à chercher, je suis tombé sur ce morceau-là avec cet ordre de se le jouer 840 fois. Et là, c'est enclenché en moi toute une série de réflexions autour de la boîte à musique, de la machine et de ces 840 fois. Parce qu'en pratiquant la musique mécanique au début pour se faciliter le travail, hein,
ouais,
parce que quand on tourne la manivelle, ouais, on n'a pas besoin de penser aux notes, donc on est libre pour
oui,
interpréter la chanson. On a l'esprit plus libre, sauf que pour que la mécanique fonctionne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à régler la mécanique qui pose parfois beaucoup de problèmes. Et je me suis dit que ces 840 fois, cette longueur de temps était un bon moyen pour se confronter aussi à cette mécanique et à cette pratique de la musique mécanique. Et j'en ai conçu du coup ce spectacle qui est en cours de création, qui est un temps d'introspection collective, on va dire, autour de la relation entre l'homme et la machine.
D'accord.
Et utiliser ces 840 fois pour permettre le temps long et l'évolution de la relation qu'on a avec une machine qu'on manipule, qui est censée nous aider, mais qui, des fois, nous ennuie plus qu'elle nous aide.
Mmh. C'est très d'actualité encore.
Oui.
840 fois, ça me fait un petit peu penser à un mantra, tu sais, quand on roule les petites boules pour prier, peu importe hein, comment on fait pour le faire. Mais effectivement, alors une introspection collective, comment ça s'amène ça? Parce qu'on a une introspection pour soi, mais comment on embarque les autres dans cette introspection finalement?
Et c'est ce qu'on est encore en train de chercher.
Ouais,
le principe du spectacle, c'est que j'ai construit une machine autour de cette boîte à musique, donc, qui fonctionne avec un pédalier de machine à coudre.
Ok.
Donc des vieilles machines Singer. Et autour de ce pédalier, il y a d'autres courroies et d'autres mécanismes qui se mettent en branle, qui produisent de la musique ou du son, on va dire, plus ou moins aléatoire, et que le manipulateur enclenche ou désenclenche, on arrive du coup à plus de la musique industrielle.
Ouais.
Et on va mélanger, on mélange ce son de la boîte à musique qui tourne en boucle, qui se répète sans cesse, à ces bruits de machines, de ferraille, de choses qui s'entrechoquent. Et l'utilisation de pédales d'effet, donc on arrive aussi à des machines actuelles.
Incroyable.
Qui permettent de rajouter de la saturation, des choses comme ça.
Ok.
Et après, il y a des textes qui viennent ponctuer, et tout ça est autour d'improvisation.
Ok.
Sur le temps long, c'est une façon de prendre son temps et de se laisser aller à cet échange avec la machine et de voir où ça nous embarque. Et aussi voir comment les textes qui sortent de façon plus ou moins aléatoire aussi nous embarquent et nous font réfléchir. Mmh. Oh, pardon, toucher le micro.
Et du coup, l'improvisation vient à travers les textes ou c'est des choses que tu as déjà écrites?
Les textes, ce ne sont pas des textes écrits, ce sont soit des textes qui datent plutôt du 19e, du début de l'arrivée dans la machine dans nos vies de tous les jours, et des témoignages actuels. Mm-hmm. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche de témoignages.
Ah.
Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont travaillé avec la machine,
ou
qui utilisent toutes sortes de machines quotidiennement et qui ont une histoire avec elles, peuvent me contacter pour raconter leur aventure et leur lien à la machine, qu'ils soient positifs ou négatifs, tout m'intéresse.
Super. Alors, c'est quoi que tu essayes d'amener comme réflexion, justement, autour de la machine? Quelle est la tienne, déjà, de réflexion? Est-ce que ce temps, est-ce que tu l'as construit, du coup, c'est cette machine dont tu te sers? Où est-ce que ça t'a amené, justement, dans cette analyse des choses?
Alors, il y a beaucoup de choses. Mais je dirais que dans la machine, pour moi, j'ai un mélange de fascination.
Ouais.
Même pour les machines anciennes, ces rouages qui s'entrechoquent, il y a une fascination du comment ça marche, et puis il y a une grosse interrogation du qu'est-ce qu'on en fait.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on en fait à la fois personnellement et aussi collectivement, et quels sont les choix qu'on fait autour de ces machines. Alors du coup, ça va des premières machines, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait de nos téléphones, qu'est-ce qu'on fait de l'IA, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et est-ce qu'on fait les bons choix? Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent en fait autour de ça, et aussi sur les notions de pouvoir autour de la machine. Les premières manifestations qu'il y a eu pour s'opposer à l'arrivée des machines datent du 19e, peut-être même un peu avant, avec les tisserands, les premières machines à tisser, et les métiers jacquards, avec des cartes perforées qui codaient déjà pour les machines.
Incroyable.
Le début de l'informatique, d'une certaine façon. Et avec un questionnement que je trouve vachement intéressant déjà pour l'époque, c'est que les tisserands de l'époque se sont rebellés en grande partie parce que l'utilisation de ces nouvelles machines permettait à n'importe qui, entre guillemets, d'utiliser la machine. Et au-delà de la facilitation du travail, il y avait une perte du savoir et du savoir-faire. Mmh. Et ça, on l'a toujours, on a nos téléphones. On sait vaguement s'en servir, mais qui sait encore comment ça marche à l'intérieur? Et cette perte de maîtrise sur la machine m'interpelle et me pose question.
Et avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup ce qu'on remarque en fait, que ça remplace certains métiers, que ça remplace beaucoup de savoir-faire. Jusqu'à où on ira avec tout ça et quelle place laisserons-nous à l'humanité? C'est ma propre réflexion.
Mais voilà, oui. Mais c'est quelque chose d'ancien et qui est toujours actuel. Et puis,
c'est incroyable.
Et puis le rapport de force autour de ça, avec à l'époque le capitalisme, le capitalisme naissant, les patrons qui décidaient d'installer telle ou telle machine. Mm-hmm. C'est toujours les patrons, toujours les possédants qui décidaient d'installer les machines, jamais les autres. Et encore actuellement, on est un peu là, donc on est... Moi, j'estime qu'on est dans une espèce d'hyper-lutte des classes. Mm. Sauf que la classe, maintenant, elle est tenue que par une dizaine d'hommes.
Tout à fait.
Et il y a une dizaine de personnes qui décident de comment va la technologie aujourd'hui. Et je trouve ça assez effrayant, en réalité.
Ce n'est pas les meilleurs. Ce n'est que mon avis.
Je suis d'accord avec toi.
On revient à Satie. Il disait « Je suis venu au monde très jeune dans un temps très vieux ». Est-ce que c'est une phrase qui pourrait te parler?
Ouais. Ouais, je pense aussi.
Ok. Donc, ce projet Vexation Mécanique, il est en cours de construction et en recherche de nouveaux partenaires à bon entendeur.
À bon entendeur.
Voilà, mais il y a une première version, il me semble, qui est déjà rentrée en phase de production. C'est toujours le cas?
C'est ça, oui.
De diffusion, pardon. Ouais. Un homme et une machine pour 30 minutes d'improvisation, à la fois performance individuelle et introspection collective, comme tu viens de le dire. Est-ce qu'on peut déjà le voir, du coup, ce spectacle?
Bah oui, alors il n'y a pas de date prévue pour le moment cette année. Il a joué une petite dizaine de fois l'année dernière.
Okay.
Et on commence à travailler sur la deuxième formule pour atteindre les 105 répétitions déjà du thème Vexation, qui correspond à peu près 2h30 à 3h de performance.
Ouf, ok.
Où pour le coup, on sera deux en duo. On va commencer à se passer la main sur la machine. Oui, parce que pédaler, au bout d'un moment, ça fait mal au mollet.
Mais c'est une grande machine, du coup?
Non, mais elle prend de l'ampleur au fur et à mesure.
Ok, d'accord. On ne va pas spoiler, du coup.
Ouais,
okay.
Oui. On peut aller voir les vidéos
qui se baladent
sur le site internet.
Ok, donc là, vous n'en êtes pas 840 fois?
Non, pas encore. En fait, le projet évolue par strates, un peu comme un programme informatique avec ses versions bêta. On va arriver, donc, normalement, d'ici la rentrée, à cette version 1.0.5 des 105 répétitions.
Ok.
On y travaille.
Incroyable. Est-ce que tu as envie de donner comme une âme à cette machine que vous utilisez sur scène? Ou est-ce qu'au final, justement, vous faites ce cloisonnement entre la machine et l'homme?
Elle a une âme par elle-même, en fait, qui se crée d'elle-même. J'utilise beaucoup sur la fabrication, beaucoup de matériaux de récupération, de choses comme ça. Et des vieux outils et des vieilles choses, donc des objets qui ont déjà
une âme
par eux-mêmes. Et donc ça constitue un agglomérat d'âmes, en fait, une âme parmi les âmes.
Incroyable.
Naturellement.
On va descendre des machines pour aller dans la rue, là où le silence est parfois plus bruyant que la ville, avec ce prochain titre que tu nous as choisi, « Tout est calme » de Loïc Lantoine. Alors j'ai adoré ce titre. Auditeur, j'espère qu'il en sera de même pour toi. À tout de suite.
Tout est calme. Trop. Les rires s'éloignent en écho. Les mots s'éteignent dans les gorges. Humanité sort du dico. Et l'audace a éteint ses forges. Les cœurs ne font plus de bruit et s'accélèrent dans le silence. Ça s'inquiète tant que ça fuit dans une douteuse cadence. Le monde est flou et lâche la rampe. On n'entend rien qu'un souffle qui peine. Et si contre le vertige on rampe, on goûte à la source de la haine. À les écouter chuchoter, tous ceux qui se font leur beurre de la peur. On fixe demain les yeux fermés, la vie se vide, pleut à pleurs. Tout est calme. Trop. Un œil écarte le rideau. Paraît qu'il paraît. Le voisin a toujours bon dos pour nier sa propre lâcheté. Cette petite musique de mort qui ronronne dedans ma télé me crache qu'il aura toujours tort, celui qui danse de côté. Si les professionnels de la trouille parviennent à nous rallier tremblants et qu'on condamne la débrouille au nom d'un dangereux or puant, il y aura de la merde dans nos urnes et ce silence on se le mangera, journée nocturne et chemise brune, j'ai peur, mais faut pas que ça se voit. Tout est calme. Trop.
Incroyable son, vraiment saisissant.
C'est ça, oui. Oui.
Pourquoi tu l'as choisi celui-là?
Parce que
tu avais envie.
Ouais, j'adore ce texte qui est à la fois que je trouve à la fois magnifique et inquiétant,
oui.
Et effrayant et très très réaliste sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la vie politique en ce moment.
Mm.
Voilà. C'est un petit peu le quart d'heure politique. Mais c'est un texte qui a déjà quelques années.
Oui.
Il est de plus en plus d'actualité, je trouve. Hein, ça a rapproché du silence des pantoufles.
Oui, oui.
Sauf que le calme commence à disparaître.
Mm.
Donc, voilà.
C'est vrai.
Et je trouve qu'il a une façon... Une poésie pour dire les choses qui est assez fabuleuse. C'est un personnage que je trouve assez extraordinaire, Loïc Lantoine, qui dit avec des mots simples des choses très profondes. Ouais, on en revient à ce qu'on disait au tout début.
Oui.
Voilà, la force de la chanson et du texte, c'est de pouvoir dire des choses très simples.
Mmh. J'ai l'impression que le répertoire de la chanson à texte a vécu un cycle et que finalement, ce qui se disait il y a vraiment... quelques années, de nombreuses années, revient d'actualité sans cesse, en fait.
Mais parce que l'actualité revient sans cesse aussi. Et
malheureusement.
Et il faut faire avec.
Ben voilà, ou pas.
Ou pas, mais bon.
J'étais il y a quelques jours au théâtre de Busan, théâtre du peuple, que tu dois connaître, j'imagine.
Oui.
Tu as déjà été?
Oui.
Ouais. Et justement, pendant la saison estivale aura lieu Hérité des brumes, la folle histoire du théâtre du peuple, avec 6 épisodes d'une pièce de théâtre, donc une pièce de théâtre en 6 épisodes pour retracer l'histoire de ce théâtre incroyable, avec une durée totale estimée de 11 heures, ce qui m'a totalement fait penser à ce que tu essayes de faire, comme quoi ce n'est pas une utopie, ou non, c'est largement réalisable, donc j'espère qu'un jour tu arriveras à ces 840 répétitions.
J'espère aussi.
J'ai découvert aussi les vieilles dames, ce sont ces grandes portes qui s'ouvrent et qui donnent directement sur l'extérieur en derrière de scène. Et j'aime bien faire des fils rouges entre ce que je perçois, d'où ma prochaine question. Est-ce que ce genre de lieu, toi, chargé d'histoire, t'inspire?
Ouais, c'est un lieu vraiment très chouette. Ouais. Alors, cette scène qui s'ouvre sur la forêt, c'est
incroyable.
C'est assez fabuleux à voir quand ça s'ouvre dans un de leurs spectacles. C'est magique.
Ouais.
Et puis on sent ce lieu chargé d'histoire et d'histoire populaire en plus, de culture populaire.
Vivant,
Vivant et chouette. Ouais.
Est-ce que tu as déjà joué là-bas?
Non.
Oh, peut-être un jour?
Va savoir.
Avec Vexation mécanique, parce qu'apparemment, ça colle. Alors Satie Fréhel, pour moi, dont on a parlé jusqu'ici, parce que voilà, ça t'inspire beaucoup, sont deux précurseurs, deux avant-gardistes. Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans ces personnages, dans ces grandes figures?
Ben, s'ils m'inspirent, c'est que je m'y retrouve forcément quelque part. Après, où je ne vais pas dire que je suis précurseur non plus. Je vais pas me...
Avec Vexation mécanique, on pourrait peut-être le dire. Ok.
Mais c'est deux personnages qui m'inspirent beaucoup.
Oui.
Et un peu comme de toute façon tous les sons que je t'ai proposés.
Oui.
Je pense qu'on les entendra pas tous parce que je vois le temps passer. Mais j'ai mis du temps. Enfin, j'ai réfléchi après coup sur pourquoi je t'avais proposé tous ces trucs parfois différents. Et je me suis dit là, sur le trajet pour venir ici qu'en fait tous ces gens, donc eux y compris, avaient quelque chose en commun, c'était une certaine intransigeance dans leur propos, dans leur façon de faire, et une incompromission.
Une justesse.
Quelque chose qui je pense, me touche beaucoup. Et je pense que tous les sons que je t'ai proposés, il y a quelque chose de ça dedans. Loïc Lantoine aussi, voilà, une façon de faire qui est propre.
Ouais.
Que chacun a sa façon de faire et qui vont jusqu'au bout, hein, une sorte de jusque-boutisme aussi dans la façon de faire, sans compromission.
Un respect de sa propre authenticité.
Tout à fait.
Et ça, ça se perd et c'est bien dommage. Vive l'authenticité, soyez qui vous êtes surtout. Est-ce que quand tu t'inspires d'artistes comme ceux-ci, tu t'immerges complètement en amont avant?
Alors, ouais, je lis, généralement, j'écoute beaucoup, oui, et je lis beaucoup aussi sur eux, sur ce qui a été dit sur eux, sur ce qu'eux-mêmes ont écrit. J'aime bien prendre ce temps-là, oui.
Alors,
pour savoir de quoi je parle.
Oui, complètement, mais est-ce que parfois on ne se perd pas soi-même à s'immerger complètement dans l'autre?
Non, je pense pas. J'ai pas l'impression, en tout cas.
Max, tu joues dans toutes sortes d'endroits. J'ai eu l'impression que tu avais quand même foulé beaucoup d'espaces différents. Tu rencontres toutes sortes de gens différents. Aujourd'hui, on parle un petit peu de beaucoup, même de fractures culturelles. Toi, tu la vois comment? Est-ce que tu as l'impression que les artistes, en général, ont leur rôle à jouer pour rapprocher les gens? C'est la question philosophique.
Question philosophique. Oui, c'est, forcément, c'est un peu notre rôle, mais je pense... qu'on ne nous aide pas forcément beaucoup pour ça. Et surtout, actuellement, là, les choses deviennent de plus en plus dures pour tout le secteur de la culture. Faut pas se leurrer.
On le dénonce.
C'est pas... les choses n'avancent pas vers l'éclaircissement. Je pense que oui, la culture a un rôle énorme à jouer sur tout ça. Et il y a besoin de plus travailler dans ce sens-là. Mais c'est pas du tout le jeu qui est joué actuellement.
Tout à fait.
L'hyper-concentration des médias dans quelques mains pousse plutôt à la fracturation sociale qu'à l'unité.
D'où cette perche pour notre prochain disque chouchou, Sauveur du monde, les vulves assassines. C'était pas... franchement, ça vient comme ça. Tout est fluide, tout va bien. On écoute ça tout de suite pour un petit moment de révolte et on se retrouve juste après.
Prennent la voiture, aiment le plastique, ils abîment la nature. Les pauvres sont feignants, fument trop, font leur course à Auchan. Les pauvres sont agressifs, ils font du bruit, leurs gosses sont mal polis. Ils prennent des douches trop longues, ils mettent le chauffage en hiver. Toi tu télétravailles dans ta ville en terre paille. Tu pars en vacances en voilier, tu parraines un bébé chimpanzé. Tu portes des slips en peau de banane, entièrement fabriqué en France. Oui, t'as acheté des chaussures en plastique, mais pour chaque paire acheter un petit arbre et planté.
J'aimerais que tu meurs dans ton lombricomposteur. Que les vers te digèrent, que tu retournes à la terre. Il faudrait que tu meurs, que puissent pousser les fleurs.
T'as planté un arbre, tu veux une médaille. Quand un pauvre utilise une paille, tu en fais tout un foin. Tu préfères boire dans des nouilles. responsable. Éco-transition chez Total. Parfois tu rentres, tu cries, c'est pas Versailles. Ici, t'as pas la lumière à tous les étages. Tu ne vas plus au bar à masse. Tu te laves le cul un jour sur deux. Tu tires la chasse une fois sur trois. Ta femme de ménage essuie les plâtres. Ton rêve c'est que les gens respirent l'air pur. Qu'ils se reconnectent à la nature. Que tous les gens puissent être heureux. Mais ils sont un peu trop nombreux.
J'aimerais que tu
assassine, ça réveille, ça fait plaisir. Tu l'as choisi pour ce petit coup de gueule, celui-là ?
Ouais, bah, aussi pour quand on parle d'incompromission dans la façon de faire, elle se pose là, elle je trouve qu'elles font, elles font vraiment du bien à l'heure actuelle dans le paysage musical actuel.
Tout à fait.
C'est un groupe qui fait vraiment du bien.
Tout à fait. Qu'est-ce qui toi te fait hurler, Max ? Sortir de tes gonds. Qu'est-ce que tu dirais si tu étais l'élu de l'assassinat ?
Je suis plutôt d'un naturel calme, généralement. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent m'énerver. L'hypocrisie, peut-être, en règle générale.
Okay.
Ce que reflète un peu cette chanson, d'ailleurs. Si on regarde les paroles, comment on peut parler de fausse écologie autour de détails sans importance, alors que le monde continue à foncer droit dans le mur. Mais
tout à fait.
Mais on nous demande de faire pipi sous la douche, quoi.
C'est bien dit. On n'a pas parlé de ton autre spectacle sonnement Cogne Pavé, qui se joue encore,
oui,
il me
tout
semble.
À fait.
Alors là, c'est encore une fois tout à fait d'actualité. De quoi parle ce spectacle ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ?
Et c'est un spectacle autour de la censure.
Ben voilà, allons-y.
Ce qui est vraiment, vraiment d'actualité,
parce que
là, chaque semaine, on voit passer des informations de festivals, de choses censurées à droite à gauche, notamment suite aux élections. Donc c'est un spectacle qui parle de la censure. On a choisi, encore une fois, en chanson, de parler de ça. On fait une sorte de tour d'horizon de chansons censurées du 19e à nos jours. Et dans l'optique, non pas d'expliquer ces chansons-là et ces histoires, même si toutes les chansons qu'on joue ont été censurées, mais d'essayer de se dire pourquoi. Voilà, pourquoi on censure ? Qu'est-ce qui pousse la société à telle ou telle époque de censurer telle ou telle chose ? Et est-ce qu'on pourrait faire autrement ? On pose la question plus que d'y répondre.
Ok.
Enfin, en tout cas, on essaye. Peut-être qu'on apporte quelques éléments de réponse. Mais voilà, le propos de base était ça, était de se dire pourquoi ?
Ok. Et si je te pose la question, est-ce que tu aurais une réponse à me donner ?
Eh bien, pourquoi ? Ben moi, en travaillant sur ce projet, j'en suis arrivé à une sorte de vision d'anarchisme désabusé.
Oui.
C'est-à-dire que pour moi, idéalement, la censure ne devrait pas exister. Si chacun pouvait pouvoir défendre ses idées dans le respect de l'autre. Mais l'homme est ainsi fait qu'il n'est pas toujours capable de respecter son prochain. Et du coup, la censure devient de fait obligatoire. Mais du coup, la question qui se pose, c'est qui la pose, cette censure, et qui la décide ? Est-ce que cette décision pourrait pas être plus collective, avec une démocratie plus participative, plutôt que posée par le haut ? Sachant qu'aujourd'hui, la censure officielle n'existe pas, mais elle est plus insidieuse. Hein, des subventions qui disparaissent, des choses comme ça.
La liberté d'expression, c'est un peu le gros mot du moment, quoi.
Oui, hein. C'est ça.
Voilà.
Et elle est utilisée pour défendre justement des choses innommables.
Tout à fait.
Et elle est mise à mal pour, au contraire, attaquer des choses plus ouvertes.
On fera une autre émission sur le
sujet. Il y a de quoi faire.
On évoque beaucoup le passé, l'actualité. On va faire ensemble, si tu le veux bien, un bond vers l'avenir maintenant. On est le 30 avril 2026. Si tu devais enterrer une capsule temporelle sous Radio Gemozo pour Légende 2084, allez, soyons fous, qu'est-ce que tu mettrais dedans ?
Une capsule temporelle, alors, des objets ou des...
Ce que tu veux. On peut dire qu'en 2084, il y a toutes sortes de technologies qui nous permettent, je sais pas, une pensée, une sensation, une chanson, peu importe, un propos.
Je mettrais, je pense, des choses simples, une petite boîte à musique, un truc à manivelle, une fleur séchée avant qu'elle ne disparaisse. Voilà, quelque chose de à la fois encore actuel, mais peut-être plus pour longtemps.
Ok.
Voilà, ça tirait. Et quelques mots.
Ce seraient lesquels ? Tu sais pas encore, peut-être.
Je ne sais pas encore, mais quelques mots peut-être tirés d'un texte de Loïc Lantoine, justement. Quelque chose d'ouvert et un peu énigmatique, mais avec quand même quelque chose derrière, dans le fond.
Comment tu le vois, toi, l'avenir ? Est-ce que tu arrives à te projeter déjà ?
Ça dépend des jours.
Ouais.
Je vais te dire, ça dépend des jours. Parce qu'il y a... Il y a des belles choses et il y a des choses sombres qui se profilent devant nous. Et je pense que j'ai l'impression que les choses peuvent basculer dans un sens comme dans un autre.
Oui.
Donc pour moi, je suis un peu comme un funambule. Voilà.
Ok, sur le fil.
C'est ça.
Max, on te retrouve prochainement en spectacle ?
Alors, assez peu, malheureusement.
Okay.
Les temps sont ce qu'ils sont. Cette année est très particulière et assez vide, je dirais. En tout cas, pour la compagnie Maxelier. Moi, je travaille avec d'autres compagnies.
Okay.
Mais je vais jouer le colporteur une ou deux fois, mais plutôt en Moselle, plutôt pas dans les Vosges.
Okay.
J'ai pas beaucoup d'actualité dans les Vosges avant septembre.
Ok, d'accord.
Par contre, je peux déjà annoncer tout de même deux dates de vexation.
Ouais, en septembre. Allez, dis-nous.
Avec une version d'une heure du duo Vexation Mécanique 1.0.2.
Ok.
À Helicop, le 30 août.
Ah, génial. Vers Saint-Dié, ça.
C'est vers Senone.
Vers Senone, ouais.
Voilà. Et la version 1.0.5.
Ok.
Donc la première représentation de cette performance de 2h30 à 3h qui sera au musée de Mirecourt, au musée de la Lutherie, pour les journées du patrimoine, le 19 septembre, il me semble.
Super. Est-ce qu'on peut retrouver tes actualités, je ne sais pas, sur des réseaux sociaux, un site internet ?
Oui, il y a le site internet max-ollier.fr et la page Facebook de la compagnie est régulièrement mise à jour.
Super. Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans les studios de Radio Gemozo pour cette première ensemble.
Merci.
J'espère que
pour
tu
l'invitation.
Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ?
De pouvoir continuer.
Mais oui. On te souhaite de continuer donc. Cette émission sera rediffusée lundi prochain à midi, car bien quand on aime, on ne compte pas. Elle sera très prochainement disponible en podcast sur notre site et nos réseaux sociaux. Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. En attendant, c'est comme à chaque fois, tu prends bien soin de toi et tu prends bien soin des autres. On se quitte avec cette chanson de Jacques Higelin. Hein, que tu nous avais proposé. Buster Keaton, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Buster Keaton.
Keaton, petit homme amoureux né. Dun dun. Fin bye bye, trippy bye bye bye. Fin letter ray. But it reviens sur terre dans mon écran, bonne. Tu seras toujours le mécano de mes rêves assoiffés, celui qui sait d'un geste fou essuyer les flaques de boue qui souillent les joues des gamins de 7 à 90 ans.